Yes, les sept visages de Jésus. Bonjour et merci à vous tous qui prenez la peine d'écouter cette série sur les sept visages de Jésus via un smartphone, une tablette, un ordi. Bonjour et merci à vous qui avez pris la peine, qui avez fait l'effort ce matin de vous arracher de votre lit pour venir découvrir le troisième des sept visages de Jésus. Bienvenue tout le monde. Vous allez bien?
Oui.
Yes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce troisième visage. Et si vous êtes en pleine quête spirituelle, que ce soit via les réseaux, vous n'êtes pas dans cette église locale directement ou sur place, vous êtes peut-être en pleine quête spirituelle, vous allez découvrir ce matin un Dieu qui n'est pas abstrait, mais bel et bien concret. Et pour vous et pour nous qui sommes chrétiens depuis des longues dates, nous allons redécouvrir, ou peut-être pour certains, découvrir pour la première fois, chose qui me surprendrait, mais nous allons redécouvrir l'impact du leadership et l'appel à laquelle nous sommes appelés. Je parle d'un leadership biblique, l'appel à laquelle toute église, tout chrétien devrait aspirer et à répondre à cet appel-là, d'exercer un rôle d'influence positive dans notre génération. Alors nous avons, aujourd'hui c'est un culte, un dimanche un petit peu normal, je dirais, comparativement aux deux derniers. On n'est pas rentré par une petite porte, on n'arrive pas dans un lieu ténébreux, rempli de noirceur. Non, c'est un dimanche normal, mais en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun dimanche qui est normal, parce que ce qu'on vit ici, c'est juste surnaturellement miraculeux. Je ne sais pas si ça se dit surnaturellement miraculeux, mais je le dis. Parce qu'il y a dans ce lieu, et même si on pense en termes at large, ceux et celles qui ne sont pas dans ce lieu, l'Église de Jésus est un miracle en soi. Il y a des jeunes, il y a des chocs de génération qui sont là, il y a des nationalités différentes, il y a des arrière-plans différents, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui sont des savants, il y a toutes sortes de personnes. Et pour réunir tout ce beau petit monde dans la même place, et puis pleurer ensemble, et se réjouir ensemble, puis s'aimer ensemble, ça tient du miracle. Il n'y a que Jésus qui puisse faire ça, sur une durée aussi authentique et une durée au long terme. Ce matin, nous allons regarder ce troisième visage intitulé « Je suis la protection ». Et sans plus tarder, nous allons lire dans Jean chapitre 10 et nous allons enchaîner. J'ai un défi de temps ce matin parce que j'ai beaucoup de choses à vous communiquer, plusieurs choses qui vont prendre place, mais ça devrait aller. Jean chapitre 10, je vais lire rapidement les textes parce que je vais revenir sur certains textes précis. Vous comprenez qu'on ne peut pas aller dans les détails de tout ce qui va être lu ce matin. On pourrait faire une série en soi juste sur trois versets qui sont là ce matin. Donc je vais me concentrer sur l'essentiel pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc Jean chapitre 10, vous rappelez, premièrement, juste revenir un petit peu en arrière. On a dans le premier message, le premier visage, on a ouvert la porte. On a vu que Jésus se présente sous la forme d'une porte. La porte est ouverte, oh, lumière, cette lumière, c'est pas une énergie, c'est pas une puissance, c'est Jésus lui-même qui éclaire notre vie jusqu'au plus, au plus profond de notre cœur, jusqu'aux motivations les plus cachées. C'est cette lumière qui pénètre chaque endroit, chaque lieu. La porte est ouverte, la lumière est là, et nous arrivons dans ce troisième visage, Jean chapitre 10. Vous rappelez, dans ce premier message, la porte, on avait lu verset 6 qui est devant vous. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Et là, maintenant, nous allons revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il leur a raconté? Donc, on arrive maintenant verset 1. Vraiment, je vous l'assure, que j'ai soif. Non, ça, c'est moi qui dis, pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas le visuel. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il les appelle ou il appelle par leur nom, celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 5. Là, le verset 10, je ne l'ai pas mis, mais le verset 10 va dire, on saute au verset 10, va dire, le voleur ne vient seulement pour voler, tuer, détruire, etc. Et lui va dire, Jésus va dire, moi je suis venu pour donner la vie en abondante. On enchaîne dans le verset 11, après avoir dit ceci, qui est le voleur? Verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, il les abandonne, il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. C'est ce qu'on appelle un mercenaire dans certaines autres versions bibliques. Je suis dans la version du Semeur pour ceux qui veulent le savoir. Verset 14. « Moi, je suis le bon berger. » Il répète. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, mais celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Je suis rempli d'émotions, non pas par un stress, mais je suis rempli d'émotions parce que je peux sentir l'amour de Dieu dans ce lieu. Dans le temps de louange que nous avons vu, que nous avons vécu, un moment doux, léger. Et j'aime, je suis quelqu'un qui peut être très expressif, même explosif, vous commencez à me connaître, mais j'aime ces moments de douceur. Dieu n'a jamais relevé quelqu'un, excusez-moi le terme, à coup de gueule. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu sur Internet, Google vient de répondre. Quelqu'un? OK, Google. L'apôtre Paul n'avait pas ce genre de problème. Le Seigneur n'a jamais relevé quelqu'un à coup de cri, à coup de brusquerie. Élie, lorsqu'il est dans un moment de profonde dépression, ce n'est pas dans le tremblement de terre, dans le tourbillon, dans les grands fracas, dans les grands bruits, mais c'est par un son doux, un murmure doux et léger qu'il va le relever. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes ce matin qui vont connaître un virage dans leur vie, aujourd'hui, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. J'en suis convaincu. Certains d'entre vous, vous allez sortir de ce lieu et à partir de lundi, votre vie sera différente. J'en suis convaincu parce que Jésus est là. Quand Jésus est là, son amour se répand, et quand son amour se répand, les vies se transforment. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. La prochaine diapo, il dit « Je suis le bon berger », si on résume les deux versets, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui connaît ses brebis et qui est connu par ses brebis. » Alors j'aimerais inviter maintenant, après avoir dit ceci, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, j'aimerais inviter Anne-Marie qui va nous donner un petit rapport témoignage de porte ouverte. Et vous allez vous demander peut-être, mais qu'est-ce que ça vient faire porte ouverte dans ce message-ci? On y reviendra dans quelques instants. Donc merci Anne-Marie.
En fait, c'est que ce dimanche ainsi que dimanche dernier, des églises dans toute l'Europe réservent leur culte pour parler de l'église persécutée et prier pour elle. Alors effectivement, quel est le lien avec ton message? Eh bien, ce lien, c'est que ces personnes de différents pays ne connaissaient pas Christ. Ils vivaient dans la terreur de la peur de la mort ou de mériter un salut hypothétique. Et ils ont découvert un Dieu de relation, un Dieu d'amour, de relation. Et alors, ça a été tellement fort qu'ils ont eu un courage extraordinaire de tout risquer pour leur foi. Force et conviction sont nécessaires pour vivre la foi chrétienne à contre-courant, dans le sens contraire. Ces chrétiens ont découvert la joie de vivre avec le Seigneur Jésus. Sa présence à leur côté est plus précieuse que tout, même si c'est au prix du rejet de leur famille et de leur entourage. Alors, Rémi et moi, on est allés à Paris il y a 10 jours pour le congrès national de Porte Ouverte. Et là, des représentants d'églises dans les pays où la persécution est grande, viennent témoigner de la situation et nous assurer de la foi vivante de cette église persécutée. Alors, je vais vous donner juste 2 exemples. Alors, il y a un homme qui est un pasteur kurde d'Irak qui s'appelle Elia. Bon, c'est un nom masculin, tu vois. Ça peut être aussi un nom féminin chez nous. Elia avait fait 6 ans de théologie dans une école islamique, mais il était assailli par des questions. « Si je fais tout cela, aurai-je le salut ? J'ai très peur de la mort. » Et un jour, il a cette possibilité de rencontrer Christ en 2005. Et maintenant, Elia est pasteur dans une petite église dans une ville du nord-est de l'Irak. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a à peu près 60 membres et ce sont tous des personnes d'arrière-plan musulman. Et on lui pose la question, mais vous avez été menacé, vous ne pouvez pas avoir d'église, de bâtiment, vous devez vous rassembler dans des conditions difficiles. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt quitter votre pays ? Et alors il répond, jamais je n'ai eu l'idée de quitter mon pays et je préfère mourir sur mon sol irakien kurde en tant que chrétien plutôt que de venir en Europe. Dieu est venu personnellement à moi, en Irak, au Kurdistan, dans ma maison. Dieu a un appel pour moi, pour mon peuple. Priez pour le peuple kurde. Jésus-Christ nous dit, là où tu es, je suis avec toi. Et je vais aussi vous parler de l'église algérienne, parce que sûrement vous en avez entendu parler. Ils vivent actuellement, ces derniers mois, une situation très difficile. Par exemple, 12 églises ont été fermées en 2 jours. Et le pasteur présent ce week-end nous a lancé un défi, celui d'aider l'église algérienne à surmonter ses peurs. Ça fait de nombreuses années que le vice-président de l'église protestante d'Algérie, donc, qui est venu à ce week-end, je ne vous dirai pas son nom parce qu'il subit des pressions de la part de la justice algérienne. Tour à tour accusé de blasphème, envoyé en prison, menacé de mort par les islamistes, il n'a jamais cessé de marcher à contre-courant. Alors prions aussi pour nos frères et sœurs algériens. Et quelqu'un a dit à un autre homme qu'on n'a même pas pu voir, qui était caché derrière un rideau, c'est quelqu'un qui a eu des menaces de mort au Pakistan, a dit « Si vous voulez continuer à vivre l'Église persécutée, non, à servir l'Église persécutée, il faut que vous soyez vous-même une Église forte, un sacrifice vivant pour être la lumière du Christ en France. »
Yes, merci beaucoup Anne-Marie. On remet la diapo, mais elle suit son cours normal. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui connaît ses brebis et qui est connu par ses brebis. Il est celui qui donne sa vie et pourtant il y a des brebis, si vous n'avez pas compris, ce sont tous ceux et toutes celles qui ont fait de Jésus leur sauveur, leur Seigneur. C'est une image pour nous faire comprendre cette relation, cette dynamique relationnelle entre Dieu, entre Jésus et nous-mêmes. Il donne sa vie, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'il y a autant de, entre guillemets, brebis croyants qui, elles, meurent? Est-ce que ça ne devrait pas être Jésus qui devrait intervenir sur le chemin de leur vie, justement, les protéger, afin qu'elles ne meurent pas, puisqu'il a donné sa vie? Alors, pour ceux qui connaissent leur Bible, etc., vous savez très bien que ça fait allusion au fait que Jésus a donné sa vie à la croix pour nos péchés, évidemment. Mais parfois, on traverse des moments difficiles et on peut se dire, mais pourquoi? On est frères et sœurs dans la foi, c'est pas si loin que ça. En tout cas, sur le même globe. C'est pas une planète extraterrestre. Et qui voient leurs membres de famille littéralement brûlés sur leurs yeux. Des cruautés sans nom. Il est où ce berger? Il est où le bon berger dans tout ça? Il est où ce Dieu qui donne la vie? On peut se poser des questions comme ça. Et parfois, on fait erreur sur notre perception de qui est Dieu. Et je crois, je fais partie de ces personnes qui croient clairement que Dieu est capable d'exercer le surnaturel. C'est lui qui détient les lois de la gravité. Il ordonne et la lumière arrive. Le paralytique marche. Encore aujourd'hui, ça arrive, je le crois. Mais parfois, on ne voit que cet angle d'attaque-là, ou cette perception plutôt, et on oublie que Jésus n'est pas un magicien. Il est un gardien, un berger. Jésus n'a jamais promis que la vie serait facile. D'ailleurs, le nombre de fois où il vous dit, de la Genèse à l'Apocalypse, où il dit « Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage, ne crains point, prends courage, ne crains point. » C'est qu'à quelque part, il sait que la vie n'allait pas être facile. Mais le berger, celui qui se présente sous le trait d'un berger, il est celui, et je ne prêcherai pas sur psaume 23, un jour je vais le faire, on va rentrer dans psaume 23, un psaume qui me passionne énormément. Mais ce berger est avec toi dans les meilleurs moments de ta vie, mais il est avec toi dans les vallées les plus sombres. Et c'est ça. Il y a des situations dans ma vie que j'ai traversées où j'aurais aimé, comme Thanos, hein, boum, et la montagne disparaît, comme le verset biblique dit. Montagne, jette-toi dans la mer. J'aurais aimé. Il y a eu des fois où j'ai vu ça, oui. Mais j'ai envie de dire, plus souvent qu'autrement, en règle générale, la montagne est toujours là. L'épreuve est toujours là. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a un Dieu qui a marché avec moi et qui s'est même qui a pu s'exprimer à travers l'amour d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Et j'ai pu traverser cette épreuve. Il t'accompagne, peu importe la détresse dans laquelle tu te trouves, il est ce berger qui t'accompagne. Et pour que la foi, une foi, soit, où des personnes soient autant persécutées, avec autant de cruauté, moi, ça vient juste me dire que Dieu n'a rien à voir avec une force cosmique. Si Dieu n'existait pas, si Jésus n'existait pas, je veux dire, ça te dérange en quoi ? Mais pour qu'il y ait autant d'acharnement, pour fermer la bouche de ceux qui vont parler de Seigneur Jésus, de son amour, c'est qu'à quelque part, ça dérange. Ça dérange parce que ça existe. Il y a une opposition qui est là. Et ces hommes et ces femmes qui traversent ces vallées de la persécution, et pour nous, dans un moindre niveau, c'est des épreuves, c'est peut-être la perte d'un emploi, la perte d'un enfant, la perte des drames, des vraies tragédies aussi, eh bien, c'est ce même Dieu qui marche avec toi. Ou de tout son cœur, il aimerait d'un claquement de doigts refaire venir ton enfant, refaire revenir ton épouse, ton travail, mais il est là et il marche avec toi. Et dans ce chemin-là, nous le verrons plus tard, il y a quelque chose qui prend place en toi. Jésus n'est pas un magicien, il est un berger. Et tant qu'on n'a pas compris cela, eh bien, on va vivre nos épreuves en double, avec un double impact émotionnel, parce qu'il y a une portion qui nous échappe. Mais quand tu as compris cela, tu dis, oh, yes, je ne suis pas tout seul. J'ai eu des fois des moments, des entraînements ou des exercices sportifs ou des trajets à faire de la marche, j'étais fatigué, je pensais que mon cœur allait exploser, c'est impossible, j'en peux plus. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui marche à côté de moi, je vais peut-être pas aller aussi vite que la personne, mais je vais être capable de traverser. Pourquoi ? Parce que quelqu'un m'encourage à y aller. Et tu finis par le traverser. J'aurais tellement d'illustrations à donner juste avec des vrais visages de cette salle qui, le peu de temps qu'on se connaît, on a pu vivre ce genre de choses-là, même si c'est... Je m'en en mode intense, mais c'est la réalité. Parmi les sept visages de Jésus, ce troisième visage est le seul qui ne fait pas référence à un objet, à une énergie comme la lumière, à une structure comme une porte, à un élément comme autre chose que nous verrons plus tard, pourquoi je brûle tous les punchs, à un principe. C'est le seul des sept visages qui ne présente pas Jésus sous la forme d'un objet, une énergie, une structure, un élément, un principe. C'est le seul. C'est le seul qui présente Jésus sous les traits d'une personne, un berger. Je suis la protection. Prochaine diapo. Je suis la protection. Et moi, j'aime bien voir dans le berger cette notion de protecteur. C'est un protecteur. Mais qu'est-ce que ça implique être un protecteur ? Je suis la protection, c'est trois choses que nous allons regarder, pour ceux qui connaissent mon nom. Je suis la protection par ma vocation. Je suis la protection par votre extension. Je suis la protection de par ma vocation. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est sa vocation. C'est pas sa job. Au Québec, on dit ça, on dit pas son. C'est pas son job. C'est pas ça. C'est pas un fonctionnaire. C'est une vocation. C'est un appel. C'est pas un mercenaire. Il le fait pas parce qu'il est payé. Il va dire, ceux qui sont payés, par contre, quand la difficulté arrive, vont s'enfuir. Et ici, on va dire, bon, toi, t'es un mercenaire, parce que toi, t'es engagé à temps plein par l'Église et t'es payé. J'aime bien dire des fois tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais la notion ici, c'est pas celle-ci. C'est pas tellement dans le fait d'être payé. C'est pas ça, le problème, il est pas là. Nous avons tous vécu à un moment ou à un autre, que ce soit chez un coiffeur, un vendeur de voitures, une serveuse au restaurant. On va prendre cet exemple-là. La dame, elle arrive, elle te sert. Puis, dans le même restaurant, tu as deux serveuses, deux serveurs qui arrivent. Puis, il y en a un, tu vois que c'est évident qu'elle fait ça pour avoir son cash à la fin du mois. C'est clair. T'as envie, moi, je me dis, il y a des fois, je me suis retenu à deux mains pour dire, écoute, change de job, ma belle. Trouve-toi un autre boulot si tu n'es pas heureuse. Ça, j'ai l'air dur, mais je comprends qu'il y a des moments dans la vie que c'est dur. Là, ce n'est pas le berger en moi qui parle, c'est juste Phil. Et puis, tu as d'autres personnes. Dans le même restaurant, tu as la serveuse qui arrive, puis tout attentionnée à tes petits soins, qui anticipe même, qui se préoccupe si c'était bien le repas. Tu vois qu'elle est passionnée pour ce qu'elle fait. Et là, vous allez dire, ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'elle vient pour boire à la fin. Arrêtons de toujours penser mal. Il y a des gens qui sont réellement passionnés pour leur boulot. Il y a des gens que leur motivation, ce n'est pas d'avoir un pourboire à la fin, c'est qu'elle est juste, elle a choisi ce boulot-là parce qu'elle aime les gens, parce qu'elle aime être en relation, parce qu'elle aime voir différentes personnes, parce que ça lui fait plaisir de servir, parce que quand elle sert, elle voit sourire, elle voit les clients ressortir de bonne humeur. Puis c'est sa passion. Les deux sont payés, mais il y en a un des deux qui n'exerce pas avec passion, qui n'est pas une vocation. Et dans ceux et celles qui ont été bergers à travers les siècles, ou dirigeants, ou responsables, ou peu importe, il y a cette même dynamique-là. Et la notion ici, ce n'est pas le fait de recevoir ou non un travail. Le mercenaire, c'est celui qui reçoit un salaire pour son travail sans y mettre sa passion. Et quand tu y mets ta passion, eh bien, tu donnes le plus qui va au-delà du salaire que tu pourrais recevoir ou que tu reçois tout court. Tu regardes même pas de ah oh, mais non mais c'est non tu vas au-delà, tu regardes pas si est-ce que c'est ton jour de congé, est-ce que ceci et ceci dit oui, je crois que les pasteurs ont besoin de respecter leur journée de congé, mais c'est pas un absolu. Mais tout en disant ça, c'est pas un absolu. Combien de fois c'est ma journée de congé, j'y vais quand même parce que c'est une passion. La personne qui est passionnée peut bien prendre des vacances pour avoir son salaire, mais elle est contente de revenir de vacances parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Est passionné. Et Jésus, c'est ce berger-là qui est passionné. Il ne le fait pas par devoir. C'est sa vocation. Il dit, j'aimerais dire qu'il est la protection de par sa vocation. Il ne changera pas d'avis à notre égard en cours de route parce que les temps sont difficiles, parce qu'il y a de l'opposition, parce que ceci, parce qu'on a un mauvais caractère, parce qu'un jour il se réveille mal au milieu des anges. Il y en a un qui était mal luné, puis là il y a des choses à régler. Non, c'est sa vocation. Jour et nuit, le Seigneur prend soin de nous avec passion. Il nous aime. Et de par ce fait-là, ça nous assure une protection garantie, constante, continuelle. Il est fidèle. Les brebis. L'image ici, il faut juste réaliser, je sais pas si vous... Moi, j'ai jamais vu des brebis avec des griffes puis des crocs. Hier, je courais, puis j'ai même pris une photo, puis c'est beau. Le chien de garde est arrivé, puis bon, il m'a pas menacé parce que j'ai pas passé la clôture. Mais j'ai pas vu les brebis. Non. Elles ne peuvent pas se défendre. Les brebis ne sont pas des voyageuses solitaires. Les brebis sont des animaux sensibles qui ont besoin d'être conduites avec douceur. Et je sais que je suis dans une église où, en fait, je devrais m'asseoir ici puis vous devriez me donner la description de c'est quoi être un berger. Je le sais, j'en suis conscient. Plusieurs d'entre vous venez de familles de bergers, êtes vous-même ou avez été berger. Vous connaissez bien mieux le sujet que moi. Et que bien des auditeurs présents aussi. Une brebis, lorsqu'elle est faible, malade, blessée, elle mourrait si son berger la conduisait trop vite et trop loin. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Lorsque tu es malade, blessé, détruite, marche à ton rythme. Je suis la protection, prochaine diapo, je suis la protection qui anticipe. Je suis la protection qui attaque, qui est attentionnée. J'ai mis le berger au féminin. Protection féminin, qui est attentionnée, et je suis cette protection qui apaise. Dans cette protection qui anticipe, il y a, en fait, juste pour voir, quatre formes de berger. Il dit il est le bon berger, mais qu'est-ce qu'on veut dire il est le bon berger? Encore une fois, c'est pas complet, mais juste un petit survol. C'est ce berger sentinelle. Le berger a cette responsabilité d'être une sentinelle. Il anticipe, il regarde. Est-ce qu'il y a un loup? Est-ce qu'il y a un ours? Oh, faut anticiper. C'est ce que David faisait. Il faisait face à des lions, à des ours, etc. David, le berger dans la Bible. Et détail, remarquez ceci. Quand David va écrire « L'Éternel est mon berger », alors que lui-même est berger, il se met dans la position d'une brebis. Si nous voulons être des bons bergers pour notre entourage, parce que le berger, j'allais dire le berger connard, ce n'est pas réservé à des pasteurs attitrés, reconnus, ou qui ont fait des études, ou peu importe. Nous sommes tous appelés à être des bergers, des protecteurs. Mais si on veut être un bon protecteur, un bon berger, il faut d'abord apprendre à être une bonne brebis. Il anticipe. Le berger qui attaque, c'est ce berger protecteur. Ça fait des années que je lis souvent le psaume 23 comme ça. L'Éternel est mon guerrier. L'Éternel est mon guerrier. Parce qu'encore une fois, on voit souvent Jésus sous des traits un peu romantiques. Ah, le bon berger, les oiseaux chantent, la petite rivière. Oh, la petite brebis. Allez, venez les brebis, on y va. On change de pâturage. Ah, oh, aujourd'hui, il fait mauvais temps. OK, on va aller de l'autre côté alors. Non! C'est une vie à risque. C'est une vie qui est dure. Et il y a des moments où le berger doit attaquer. Pas en mode offensif que c'est lui qui lance l'attaque, mais il va falloir qu'il se défende. Il va falloir qu'il agisse, il va falloir qu'il réagisse. Attentionné, il va guider. Il apaise. Le berger, c'est le berger guide, il y a le berger médecin. Le berger protecteur qui attaque, là, le bon berger, il n'est pas à l'écran, mais le psaume 121, vous lirez chez vous les trois premiers versets, dit ceci. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et puis il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pose la question. Ah, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Même pendant ma nuit, là, même pendant que je dors, si quelqu'un veut du mal, j'ai un berger qui est prêt à sortir les griffes. Tu fais de l'insomnie, tu fais des cauchemars. Mais Jésus, il est là sur ton sommeil. Il est avec toi, même pendant que tu dors. Le moment le plus vulnérable de ton éveil à ton sommeil, vice-versa, ton moment le plus vulnérable, quand tu vas attaquer quelqu'un, l'idéal, c'est quand il dort, c'est clair. À ton moment le plus vulnérable, le Seigneur te garde. Dans ton moment le plus sombre, le plus noir, le plus endormi, le plus persécuté, le Seigneur est là et te garde, il t'accompagne. Le berger guide, qui est ce berger attentionné, on le voit, je ne lis pas la référence, elle n'est pas à l'écran, mais avec Jacob, à un moment donné, avec Ésaü, Ésaü va lui dire, OK, ben on y va en avant, puis Jacob va lui dire, oh mon Seigneur, il sait que les enfants sont fragiles, que j'ai les brebis et des vaches qui allaitent, si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait, que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, de mon côté, je les suivrai lentement au pas du troupeau, qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur. Ça, c'est le berger, c'est le berger guide. Berger attentionné. Peut-être tu es blessé, peut-être tu fais face à une addiction, peut-être tu fais face à une mauvaise habitude, peut-être qu'il y a des personnes ici, moi inclus, là, si on pouvait mettre un scan, là, on a tous des cicatrices qui ont été guéries, puis il y en a encore qui restent à être guéries. Moi, j'ai dans ma vie encore des cicatrices qui ont besoin d'être guéries, je vous le dis. Je suis un être humain. Puis ils sont en processus de guérison. Mais Dieu ne force pas, il marche avec toi. Il marche à ton rythme. Puis s'il faut qu'il marche un petit peu plus lentement, le Dieu qui dépasse toute la vitesse de la lumière et qui possède l'éternité dans son pouvoir, il marche à ton rythme. Waouh! Là, on n'est pas dans une énergie cosmique. Là. Comment est-ce qu'une force universelle peut avoir une telle empathie? Ça ne m'intéresse pas du tout de placer ma confiance dans une énergie universelle. Aucune émotion, aucune compassion. Le berger médecin, c'est celui qui soulage, qui guérit. En hébreu, je ne ferai pas la description, je ne suis pas un professionnel là-dedans, mais simplement le concept du médecin en hébreu, c'est quelqu'un qui répare en cousant quelque chose. Il y a des cicatrices ici, puis je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut le coudre. Des fois, ça fait mal aussi. La guérison passe par un processus de douleur aussi. Ça fait mal. Mais un jour, ça s'arrête de saigner et tu guéris. Moi, je prie que le Seigneur puisse guérir des cœurs ici. Jésus. En grec, c'est un peu la même chose, c'est l'idée de rendre à la santé quelqu'un, de le libérer de ses soins. C'est ce que le Seigneur fait. Il y a dans ce lieu des souffrances émotionnelles, spirituelles, mentales, physiques. Je dis dans ce lieu et en général. Puis c'est ce berger. Je suis le protecteur qui t'apaise, qui guérit. Il y a des personnes qui ont été blessées spirituellement par des bergers qui ont abusé spirituellement. Un jour, je vais faire, ça fait longtemps que j'ai ça en tête, je sais pas quand, mais je vais faire un jour un message sur les abus spirituels. Comment détecter les abus spirituels? Il y a trop de chrétiens aujourd'hui à qui leur louange a été volée parce qu'ils ont été abusés spirituellement, à qui leur passion de servir et d'aimer Christ aime toujours, mais c'est comme éteint parce qu'il y a eu des abus spirituels. Et le Seigneur est celui qui guérit. Là, si on veut être honnête, les pasteurs, là je parle pour, voilà, Si on veut être honnête, tout pasteur aspire à avoir une église en bonne santé. C'est quoi une église en bonne santé? Une église où il n'y a pas de problème. Ça, c'est plus facile. Hein? Tout va bien, ça roule, t'avances. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Là, je m'adresse à ceux qui aspirent au pastorat, au ministère. Change de direction. Si c'est ce que tu veux, ça n'existe pas. Tu vas voir des gens qui vont être guéris, qui vont se rétablir. Ça va faire partie du privilège. Mais une église en bonne santé, à 100%, ça n'existe pas. Sinon, voilà, le Seigneur n'aurait pas suscité des personnes pour prendre soin de son église. Et Jésus, contrairement à nous, en tant qu'être humain, le réflexe naturel serait de fuir la pression, la maladie, les problèmes. Non, Jésus, vous savez ce qu'il fait? On parle du berger, la protection. Là. Jésus, là, il cherche. Vous savez ce qu'il cherche? Ok, c'est où qu'il y a une jambe cassée? C'est où qu'il y a un bras? C'est où qu'il y a quelqu'un qui a un cœur brisé? C'est où qu'il y a quelqu'un qui sa famille est éclatée? Je cherche quelqu'un qui a une addiction, quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir, quelqu'un qui se bat avec ses démons. Je cherche quelqu'un qui il est où le sang qui coule? Il est où le cœur qui est brisé? Ça, c'est le cœur du berger qui cherche. Il ne cherche pas la brebis parfaite. Il cherche. Si ce matin, tu es dans cette situation à plus ou moins faible degré, il te cherche et il te trouve. Il ne fuit pas, parce que c'est sa passion, c'est sa vocation, c'est ce qu'il est, prendre soin de celui qui saigne, qui est brisé, et venir recoudre et réparer. L'Éternel est mon berger, il est le tien aussi. On continue. J'ai dit, le défi de temps, ça va être difficile. Je suis la protection. Je suis la protection pour ceux qui connaissent mon nom. Dale Carnegie, tout le monde connaît, je pense, qui a écrit ce livre extraordinaire, « Comment se faire des amis ». Un best-seller bien connu, il va dire que, il explique qu'un moyen bien simple de faire comprendre à autrui l'importance qu'il revêt pour nous, c'est de connaître son nom. Chacun préfère son nom à tout autre. Se souvenir de celui de nos interlocuteurs constitue la marque de votre considération. Moi, je m'en fais un devoir depuis toujours, depuis des années que je suis dans le ministère, au-delà de 20 ans, de retenir le nom des gens, quitte à leur demander 15 fois de suite à chaque dimanche quel est ton nom. Pourquoi? Parce que pour moi, chaque personne est importante. Chaque personne a une histoire. Chaque personne est unique. Et chaque personne a quelque chose en elle qui m'inspire. Et la moindre des choses que je peux lui accorder, c'est me rappeler de son nom. Les marketing, machin, tout ça, vont se servir de ça, mais ils ont volé un principe que Jésus a établi. Ça, c'est pas Dale Carnegie qui a inventé ça. Et Jésus va dire, il appelle par leur nom celui qui lui appartient. Une protection pour celui qui connaît son nom. C'est évident, tu ne peux pas bénéficier d'une assurance si tu n'as pas souscrit à cette assurance. Tu ne peux pas bénéficier d'une Ferrari, du feeling qu'il y a à aller dans une Ferrari si tu ne rentres pas dans la Ferrari, que tu appuies sur le gaz puis tu avances. Tu ne peux pas bénéficier de l'amour de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu protège pas. Dieu protège, son amour va au-delà. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a une dimension où tu rentres dans sa présence. Eh bien, parce que tu connais son nom, tu bénéficies pleinement de qui est-ce qu'il est. Je répète, je ne suis pas en train de dire que si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas sa protection. Heureusement que le Seigneur m'aimait avant que je le connaisse, parce que je vous raconterai des histoires, c'est juste fou, là, qui dépassent tout concept de religiosité, de religion, où déjà il me protégeait alors que j'étais dans l'illégalité totale. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que ça peut encourager. Voilà. Mais ça, c'est le Dieu d'amour. Mais il y a une dimension que quand tu connais le nom, je pense que vous n'avez pas trop, très bien compris. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on puisse saisir ici. Jésus te connaît par ton nom. Il n'y a pas une personne ici, lorsque quelqu'un t'interpelle, « Salut Paul, comment ça va ?»« Salut Philippe, comment ça va ?»« Salut Tante Yvonne, comment ça va ?» Tu entends ton nom, ça parle. Ce samedi, c'était la remise des diplômes. Des bacs. Il y avait 600 personnes au lycée. 600 personnes. 90 nationalités. Des noms que j'avais jamais entendus. Je ne peux même pas imiter, je ne peux même pas répéter. 90 nationalités représentées. 600 personnes. Et là, j'ai ma fille qui va chercher son diplôme. Et là, je filme. Alors ça, c'est pour vous mettre en contexte. Maintenant, regardez ceci. Voici ce qui se passe. Petit clip. Clip remise du bac en 25 secondes. Et là, elle me regarde, « Non, papa, fais-moi pas ça !» On faut monter
dans le lien. Johanna Dubon. Wouh ! Asia Elfarkouti. Aurélie de Fritas. Et Anaïs de la Folie.
Ben, ouh, aussi pour Johanna, hein. Et puis, ouh, pour tous ceux et toutes celles qui ont passé leur bac. Et, hein, on peut, est-ce qu'on peut les applaudir? Ils ont travaillé fort, yes! Et là, tu penses que ton nom a été oublié parce qu'en ce moment, tu te dis, moi, mon bac, je ne l'ai pas eu. Moi, à l'école, ça n'a pas été. Moi, mon test de ceci, de cela, je ne l'ai pas eu. Je ne mérite pas d'être applaudi. Moi, là, il n'y a pas d'avenir pour moi ou presque pas, ou je ne sais pas ce qui... J'aimerais te dire, même si le directeur de l'école n'a pas mentionné ton nom, Jésus connaît ton nom. Tu dis, oh, maigre consolation. Non, grosse consolation. J'aimerais te dire que même, et là, ce n'est pas pour encourager à ne pas faire des études. Comprenez-moi ceci. Comprenez-moi ceci. Comprenez-moi bien, comprenez bien ceci. Même si tu échoues après avoir fait tous les efforts que tu avais besoin de faire, j'aimerais te dire que lorsque Jésus... Vous avez un gars en face de vous. Si ce n'était pas parce que Jésus est bon, le berger, ce n'est pas grâce à ses exploits académiques qui aujourd'hui serait là où il est aujourd'hui. Et je ne parle même pas d'être dans une église, je parle juste d'être dans la vie en général. À partir du moment où tu mets ta confiance en Jésus, il a ta destinée en main qui va au-delà des prévisions académiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier, pas du tout. Bien au contraire, ce que je suis en train de dire, c'est que tu as quelqu'un au-dessus de tous les directeurs de ce monde qui tient ta vie en main, et puis ce n'est pas terminé pour toi. Alors ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré. Dieu a un plan. Peut-être pas celui que les hommes auraient voulu, que toi t'aurais voulu ou auraient prévu, mais il a un plan pour toi. Alors vous voyez, ça c'est en 25 secondes, ça fait une heure que moi je suis là, je suis en train de filmer, je n'ai pas mon stabilisateur, fait que ça tremble. Puis là, tout d'un coup, je ne vois pas le coup venir. J'avais vu Johanna en arrivant au milieu de 600 personnes, j'ai vu les deux seules personnes que je connaissais, ma fille et Johanna. Clac. Et là, tout d'un coup, j'entends, donc j'avais déjà vu, mais je ne m'entendais pas, Johanna Dugon, oh, Johanna Dugon, je connais ce nom. Yes, sir. Et là, mon défi, c'était là, j'ai eu Johanna, mais j'aimerais tellement avoir ma fille aussi. Et là, j'enregistrais, puis le temps passait, puis des fois, il fallait que j'efface mon truc dans ma parce que je voulais pas surloader ma caméra pour que j'aie encore de la mémoire. Donc, c'était un peu la roulette russe. J'ai dit, OK, là, je prends une chance. Allez, j'efface vite, je refilme. Puis à un moment donné, pourquoi? Parce que je voulais entendre et capter le nom de ma fille dans ma vidéo. Et un jour, on va arriver dans le ciel et le grand directeur de cet univers va dire Clément Bourgeas. Et tout le monde va faire « Wouah !» Et ainsi de suite. Didier Marchand? Archand? Marchand, marchons ensemble. Didier Marchand, « Wouah !» Et j'espère que je vais faire partie de la longue liste. Philippe de la Fontaine, « Yes !» Il te connaît par ton nom. Et quand tu entends le nom de quelqu'un, et quand ce berger-là entend que quelqu'un dit « Je vais faire du mal à Johanna Dugon ou à Eloise de la Fontaine ou à qui que ce soit ici », il se lève comme un guerrier bidiatan. « Elle m'appartient, c'est ma brebis. Avec ou sans diplôme, avec ou sans ceci, je vais me lever puis je vais la protéger, je vais les protéger. » Ça, c'est ce berger-là. Lorsque tu entends dans « Oh ben, on a fait du mal à telle personne parce que tu connais son nom. » Parce que tu connais son nom, tu vas te lever. Il appelle chaque brebis par son nom. Il connaît ton nom. Peut-être, messieurs, mesdames, vous qui êtes en âge avancé, peut-être que ton corps est en train de faire une belle œuvre d'art de rides sur ton visage, mais j'aimerais te dire que ton nom n'est pas ridé devant le Seigneur. Il ne l'a pas oublié. Et à travers toutes les générations, les années que tu as passées, il connaît encore ton nom. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est en plein Alzheimer, qui est proche de toi. J'aimerais te dire que même le jour, potentiellement ou éventuellement plutôt, que tu oublierais ton nom, Jésus n'oublie pas ton nom. Dieu n'oublie pas ton nom. Même si la fin de mes jours finira dans un lit d'hôpital à ne plus savoir qui je suis, à ne plus reconnaître mon monde, eh bien, il y a un Dieu dans l'éternité qui sait que je m'appelle Philippe de la Fuente. Yes! Ça, c'est le berger dont on parle. On n'est pas dans une force cosmique. Ça, c'est le berger. Il connaît ton nom. Et j'aimerais te dire, peut-être, ouais, mais moi cette semaine, la semaine passée, ou dans ma vie, je me bats avec des mauvaises habitudes, des ceci, de cela, ou je suis malade, ou que ce soit physiquement. J'aimerais te dire, ton handicap n'est pas ton nom. Tu n'es pas ton handicap. Tu n'es pas ton addiction. Tu n'es pas ton travers. Tu es ce que tu es en fonction de ce que Jésus t'a établi. Alors relève-toi, lève la tête et dis, non, attends, mon nom est connu du Seigneur. Mon nom est connu du Seigneur. Sur les 600 personnes, les 598 noms faisaient écho à plein de gens. Puis moi, ça ne me parlait pas. mais les deux personnes parmi ces 600 personnes m'a parlé. Alors imagine-toi lorsque Jésus entend ton nom. Et l'important, ce n'est pas tellement que tu te fasses un nom à vous qui êtes dans la carrière, dans l'avenir professionnel. L'important, ce n'est pas qu'on se fasse un nom, mais que tu saches ce que représente celui de Jésus. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Marche à leur tête, les suivre. Pourquoi? Parce que sa voix leur est familiale. Pourquoi est-ce qu'ils le suivent? Parce que sa voix leur est familière. La question que je pose, je vais terminer bientôt, alors qu'il connaît ton nom, connaissons-nous celui de Jésus? Je ne parle pas comment l'écrire. Je parle de ce que ça implique. Et si on veut entendre la voix de ce berger sentinelle qui nous avise, soyez vigilants, etc., eh bien, c'est dans la mesure où j'ai cette relation, où je connais mon Seigneur, je connais son nom, où je peux discerner sa voix. Intimité. Il y a... Ma prochaine diapo, j'ai besoin de deux personnes. Tiens, Pierre Richard, par exemple. Alexis, comme ça, tu ne seras pas venu pour rien en visite aujourd'hui. C'est important qu'on puisse saisir ceci. Parce que le prochain verset ici, on voit, il dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. » Tout comme. Voici dans nos têtes ce qu'on a. Et là, pour lui donner le crédit, je ne lirai pas son commentaire, mais c'est Frédéric Godet qui mentionne cet aspect-là. Je vais le dire avec mes propres mots. En fait, nous, l'image qu'on a, c'est que le Père et le Fils sont là. C'est une relation, ils se connaissent, etc. On est proches, on se prend dans les bras, on se connaît là, vraiment. Dans les moindres recoins, c'est le Père, le Fils, on l'a, etc. Il dit, je connais mes brebis tout comme je connais mon Père. Et nous, l'image qu'on a, c'est celle-ci. C'est, ah voilà, tout comme je m'entends bien avec Alexis, pareil, on a cette même relation, on est proches. Puis on a, c'est pareil. Nous, dans notre tête, là, c'est comme un copier-coller. Je m'entends avec toi comme avec mon voisin, comme avec mon collègue, comme avec... Ce n'est pas ça que Jésus parle, donc si on va dans la profondeur du grec, pas du tout. Et là, je ne veux pas vous perdre ceci, parce que là, on est vraiment dans l'intimité là, de cette relation que Dieu à laquelle nous appelle. La vérité, là, c'est ça. Viens, rapproche-toi. Quand il dit « tout comme », là, c'est tout comme ça. C'est qu'il est là, et tout comme je connais mes brebis, faisons semblant d'être unis. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est pas tout comme, c'est que la relation que j'ai avec mon Père, que le Père avec le Fils, il inclut toute son Église dans cette relation-là. C'est pas un copier-coller, c'est identique. C'est exactement ça que le texte veut dire. Merci beaucoup. C'est exactement ça que ça veut dire. Et je veux terminer avec ce dernier point, on va arriver à des aspects pratiques, j'ai coupé certains points. Mais si je suis la protection par votre extension, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Alors on sait qu'il parlait de ceux qui n'étaient pas juifs, parce qu'il y avait cette pensée que seuls ceux qui étaient juifs pouvaient mériter le salut, évidemment. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas juifs, qui sont de toute nationalité, qui un jour vont reconnaître en moi leur salut. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Mon point ici, c'est j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas ici. Je pose la question, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les nouvelles personnes qui s'ajoutent dans l'Église, dans nos vies? Je ne parle pas forcément dans les murs. Là, je vais dans le pratico-pratique. On va parler de croissance. Pas croissance numérique, même si ça fait partie d'eux, mais ça, c'est de vraie croissance. Croissance spirituelle, croissance intérieure. Quel genre de berger sommes-nous? Et là, vous dites, ouais, mais c'est toi, tu fais partie de ceux qui sont pasteurs et tout ça, donc en fait, berger, nous, on n'est pas des bergers. Non, wow, stop. À chaque fois que Jésus parle, tout ce que Jésus a fait, c'était dans le but de donner un exemple afin qu'on le suive. Je suis la lumière, vous êtes la lumière, vous êtes la lumière du monde. Je suis le sel, vous êtes le sel. Il ne va pas le dire comme ça, je suis la porte, mais il nous appelle à être une porte, et ainsi de suite. Tout ce que Jésus a fait, c'est dans le but de transmettre afin que nous puissions l'imiter. Être en imitation. Tout. Il y avait à l'époque les titres pour le leadership dans la Bible en général, c'était ceci. En général. Évêque, ancien, prêtre, prédicateur, ministre. Rarement on a vu celui du berger, c'est celui qui est le moins présent. Et en fait, il n'y a aucun de ces titres qui rencontre pleinement l'intention que Dieu a lorsqu'il nous appelle à être responsables et protecteurs. Pourquoi ? Parce que l'évêque, je ne ferai pas tout l'historique, mais l'évêque avait cette notion de, était beaucoup plus un administrateur, beaucoup plus, il y avait des gens, même on le voit dans l'histoire, il y a cette notion d'abus, cette notion d'administre, etc. L'ancien, il y avait cette notion de, ben, faut être expérimenté, âgé en âge et en expérience. Donc si je veux prendre soin, donc il faut que je sois vraiment âgé et expérience. Timothée, c'est un jeune et pourtant il a pris soin. Il y en a plein d'autres. David était jeune. Il y a plein de jeunes qui ont été des protecteurs. Donc, elle reflète en partie, mais pas complètement. Les prêtres avaient cette fonction de parler à Dieu du peuple et d'arriver vers le peuple et de parler au peuple de Dieu. Et il y avait cette notion d'intermédiaire et ça gardait, quand ça commençait à dégénérer, ça gardait des gens, on parlait d'abus spirituels, dans un esclavage spirituel pour dire, ben, si vous voulez parler à Dieu, ben, faut venir vers moi. Puis, si tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, ben, je suis le seul en tant que prêtre qui peut te dire ce que Dieu pense. Et là, il y a eu énormément d'abus. Alors, oui, il y a eu des bonnes choses, mais encore une fois, l'image du prêtre, c'est pas la meilleure image du leadership spirituel qu'on peut avoir. Il y a le prédicateur. Le prédicateur, on va dire, mais ouais, ça c'est un berger, puis quand il parle, ça nous nourrit, etc. Non, le prédicateur, moi je suis là, il y a une distance. Un prédicateur, c'est pas un berger. Un prédicateur, il va communiquer le message, mais le berger, comme je l'ai suffisamment bien décrit, c'est celui qui va marcher avec toi, qui va t'accompagner, qui va pleurer avec toi, qui va se réjouir. Donc encore une fois, le prédicateur, dire que c'est le leadership spirituel par excellence, non. Ministre, ah ben là, il y a cette pensée de le ministre, il y a cette pensée de cette notion de fonctionnaire, cette notion d'appel. Ben, si t'as pas reçu un appel pour faire des études bibliques ou aller à temps plein, alors là c'est vraiment un ministre, c'est spécialement moi je suis pas ministre parce que j'ai pas reçu cet appel, j'ai une autre carrière. Stop. L'image la plus parfaite que Dieu a en tête lorsqu'il parle du leadership, de la responsabilité de prendre soin des gens, c'est celle-ci, celle du berger. C'est celle que je viens de décrire, on aurait pu encore continuer tellement longtemps. Et on est appelé à être des bergers. Tous. 5 leçons à mettre en pratique pour nous aujourd'hui. C'est le dernier point que je regarde, c'est la dernière diapo. On va parler de ça après. 5 leçons à mettre en pratique. Si on est appelé à imiter Jésus, je pense que si, lorsqu'on voit des nouveaux, même des gens qu'on voit régulièrement, je pense qu'on est appelé à considérer l'identité d'autrui en se remémorant de son nom. Plutôt que de se dire, ah ouais, on était 50 de plus dimanche passé. Non, la vraie question, c'est, est-ce que tu sais comment s'appelaient les 3 personnes à qui t'as serré la main? Ce qui est sous-entend, est-ce que tu as appris à les connaître? Est-ce que tu apprends à les connaître? Les inclure dans inclure les gens dans nos relations, comme je l'ai mentionné ici, comme j'ai exprimé ici. Plutôt que d'avoir des petits cercles, et puis après ça, on a des affinités et tout, mais les inclure dans nos relations. C'est super qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent à l'église. Mais comment est-ce qu'on va faire pour en prendre soin? Ah, ben le pasteur, il est là, il y a un comité d'anciens. Quoi? Parce que vous pensez vraiment qu'il y a même une dizaine de personnes, on est en mesure de prendre soin d'une centaine de personnes? Avec tout ce qu'il y a à faire autour les uns et les autres? J'appelle l'église du CEP à être une église avec une mentalité de berger. Et c'est la force de cette église qui s'est auto-pastorisé pendant des années. Il y a des choses, parfois, dans la vie, dans le ministère, où on veut amener des nouvelles choses, des nouvelles façons. Et je crois qu'il y a des choses qu'on a besoin de garder et de conserver. Et ça, cet ADN qui est déjà dans l'église du CEP depuis, on l'a entendu dans l'historique tout à l'heure, elle est là. Cette spontanéité d'inviter quelqu'un à manger, cette spontanéité d'aller serrer la main, cette spontanéité, et ça, mes amis, chers frères, sœurs, je nous en supplie, ne perdons pas ça. Ne perdons pas cette mentalité de berger, ce cœur de berger qui s'intéresse, qui inclut, être dévoué et non opportuniste ou consommateur. Mais c'est ce berger qui se donne, c'est cette serveuse qui fait son, ce qu'elle a à faire avec passion. Prendre soin des autres, l'écouter, l'accompagner, un coup de téléphone à l'ère de la technologie aujourd'hui, un petit coup de WhatsApp, comment ça va, je pensais à toi, ça t'a pris 0 minute ou presque. C'est pas long. Tu continues ta route, puis là, tu peux prendre un rendez-vous. Si tu vois que ça va plus loin, tu peux aller voir la personne. Pas besoin d'avoir des hautes études en théologie pour faire ça. Prendre soin des autres. C'est cette mentalité de chacun son prochain plutôt que chacun pour soi. Si chacun adopte cette mentalité qui se dit, et ce cœur surtout, c'est plus qu'une mentalité, ce cœur de chacun son prochain. Si toi tu prends quelqu'un, toi tu prends soin de quelqu'un, toi tu prends soin de quelqu'un, ben l'Église vit une croissance spirituelle intérieure dans son caractère, dans son attitude, où tu viens plus juste consommer puis dire, ah ouais, c'est bon, mais c'est plutôt tu te dévoues. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un besoin au niveau de la construction? Est-ce qu'il y a un besoin pour nous aider? Est-ce qu'il y a un besoin au niveau de l'enseignement? Est-ce qu'il y a un besoin au niveau de la louange? Est-ce qu'il y a un besoin au niveau des enfants? Tu te dévoues, tu n'es pas là comme un opportuniste, mais tu as une mentalité de berger parce que tu veux prendre soin de ton prochain. Et ça, c'est ce que j'appelle la croissance spirituelle, parce que chacun se responsabilise devant Dieu en faveur de son prochain. Ça, c'est pas mal bien résumé, ce n'était pas prévu, mais chacun se responsabilise devant Dieu en faveur de son prochain. Ça, c'est une église qui avance. Et là, on n'est pas dans le numérique, là, on est dans le cœur de Dieu les uns vers les autres. Et le dernier, on aurait pu en mentionner tellement d'autres, ce que Jésus faisait constamment, c'est qu'il attirait l'attention sur son Père. Tout le temps, son Père. Bon, le Père m'a envoyé, ce que le Père fait, je le fais. Le Père. Et vous et moi, on est appelés à attirer l'attention, non pas sur le CEP, non pas sur comment tu t'appelles, non pas sur tes exploits, non pas sur ton expérience passée, non pas sur tes blessures, non pas sur ceci, mais il y a un temps pour ça aussi, mais sur Jésus. Le vrai leadership spirituel, la vraie influence positive biblique spirituelle, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent avec ou sans la santé, qui se lèvent et disent, moi, je suis là, j'ai tel amour dans mon cœur que Jésus a déversé. J'ai besoin, il y en a trop, j'arrive pas à le contenir. Il faut que je le déverse. Voici ce qu'il a fait. Voici. Non, regarde pas moi. Voici. Ouais, c'est fou les guérisons qu'il y a. Oui, merci Seigneur, mais voici, c'est lui. Circulez, il n'y a rien à voir. Vous avez compris? Ils marchent à leur tête et les brebis le suivent, j'ai terminé, parce que sa voix leur est familière. Troisième visage de Jésus. Amen. J'ai fini. Il faut que je finisse. J'ai pas fini, mais il faut que je finisse. Mais que le Seigneur puisse, ouais, que le Seigneur puisse guérir celui qui a besoin d'être guéri. Marcher au rythme de celui qui a besoin d'être. Lever celui qui a besoin de lever. Mais essentiellement, que notre cœur soit attaché à Jésus avec toutes les répercussions qu'il y a ensuite. Que son nom soit glorifié à travers les uns et à travers les autres. Ne sortez pas de ce lieu sans avoir salué quelqu'un plus que ça, vous êtes intéressé. Si tu ne connais pas son nom, comment tu t'appelles? Je vais garder contact avec toi parce que le protectorat de Jésus-Christ, Jésus n'est plus là. Moi, je ne sais pas si vous le voyez, moi je ne le vois pas. Je le ressens, je sais qu'il est là, mais physiquement, je ne peux pas dire que je sente sa main sur mon épaule présentement physiquement. Mais par contre, toi, tu peux poser la main sur l'épaule de quelqu'un, tu peux être l'oreille de quelqu'un. Et ça, c'est l'Église de Christ sur terre. Amen.